10 mai 2023, il sonne 11h. À vous toutes et à vous tous qui êtes à l'écoute sur Canal FM à Lomé ici, Radio Courtoisie à Dapan, Radio Sama FM à Baga, Niamtougou, Radio Daoul à Bassa, Radio Centrale FM à Sokodé, Radio La Paix, la voix du plateau à Takpamé, Radio Lumière à Nero, mais également les radios numériques comme Radio Le Bénin et Bénin Radio, toute autre application numérique par lesquelles vous êtes en communion avec nous, le club de la presse, pas mon innocente voix vous salue. Émission réalisée technique par le duo Vitogbe Kokou Michel Tomenga et Jirod Kodjo Akucha. Il est de bon temps que l'innocent fasse venir quelqu'un qui prétend être béni à ses côtés. Kokou Sylvestre, bonjour.
Oui, bonjour, ça c'est bonjour à toutes et à tous. Je profite de l'occasion pour te bénir. Toi l'innocent.
Bon, je dis amen. Avec Abel aussi, bonjour, de Santé Éducation.
Bonjour Sas, bonjour à tous et bonjour à chacun aussi.
Nous attendons un troisième, voire un quatrième confrère pour que le plateau soit complet. Mais laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, nous débattons de questions de santé. Nous allons sur dans les colonnes de Santé Éducation partager entre nous quelques articles, alertes et recettes de santé. Tout comme beaucoup de journaux reviennent aujourd'hui, écrivent abondamment sur la visite annoncée de Forogne Nsingbé auprès de Emmanuel Macron. Ce sera en fin de journée. Et puis d'autres journaux reviennent sur le recensement électoral l'opération vient d'être clôturée dans la zone 1 en attendant qu'elle reprenne dans la zone 2 et d'autres sujets d'actualité. Ainsi, la pensée du jour nous enseigne que la prise de conscience est le plus grand facteur de changement, a écrit Eckhart Tolle. Et encore une fois, la prise de conscience est le plus grand facteur de changement. Que chacun fasse l'effort d'une prise de conscience sincère et profonde, individuellement et collectivement, et nous nous porterons tous de mieux en mieux, n'est-ce pas Abel Ozi?
Oui, ça c'est vraiment important de prendre conscience des réalités, de prendre conscience du bien et du mal qu'on fait, de prendre conscience individuellement et collectivement.
Merci. Commençons par cette information sur le centre hospitalier régional Lomé Commune, pour lequel beaucoup de personnes ont fait plaidoyer. Plaidoyer qui est devenu réalité depuis le 2 mai. Le CHR Lomé Commune est de nouveau ouvert au grand public, Abel.
Oui, exactement. Vous savez, le CHR a été un des centres qui a vu la prise en charge des patients du Covid pendant plusieurs années.
Trois ans comme ça.
Et depuis le 2 mai, on constate que le CHR Lomé Commune maintenant est réouvert au public. Donc, toutes les prestations médicales, consultations seront maintenant faites à toute la population. Donc, on invite tout citoyen à pouvoir aller s'offrir ses soins là-bas.
C'est vrai que l'hôpital n'est pas un lieu de tourisme, mais quand on est malade et qu'on souffre des pathologies comme des problèmes de médecine générale, de pédiatrie, de maladies infectieuses, de cardiologie, de rhumatologie, d'ophtalmologie, de stomatologie, d'otorhino-laryngologie, des analyses de laboratoire, de radiologie, de pharmacie. Pour le moment, pour ces services-là, le CHR Lomé Commune est ouvert depuis le 2 mai. En attendant les autres services, notamment la chirurgie, exactement, qui est vivement attendue.
Exactement, exactement. Cette spécialité est vivement attendue là-bas.
Merci. Merci aux bonnes volontés qui ont contribué à la réouverture de ce centre de santé pour le grand public. Nous continuons la page 3 avec le titre phare de Santé Éducation cette semaine. C'est quand la prostate devient malade, et là c'est les hommes qui en sont atteints, et quand les hommes sont atteints de prostate, les victimes collatérales, c'est leur compagne, n'est-ce pas Abel?
Oui, cette parution, on parle de la prostate. Vous savez, la prostate, c'est d'abord une glande du système reproducteur chez l'homme qui fabrique en fait ce qu'on appelle le liquide séminal. C'est-à-dire, c'est grâce à la prostate qu'on peut parvenir à l'éjaculation chez l'homme.
Donc, disons en français facile, le sperme.
Le sperme, voilà, chez l'homme. Donc, vous savez, à partir de 50 ans, il est recommandé à tout homme de faire surveiller par un médecin sa prostate. Pourquoi ? Parce que certains signes peuvent nous indiquer une anomalie. Donc, je prends juste un seul signe. Mm-hmm. Par exemple, je prends juste les brûlures quand on urine, par exemple. Mm-hmm.
Quand on fait pipi et qu'on sent des brûlures dans le pénis,
voilà. Donc,
ça peut être un signe.
Ça peut être un signe. Donc, ça pourrait être la cause d'une infection urinaire qui peuvent provoquer ces brûlures urinaires-là. Donc, l'infection urinaire peut engendrer aussi une inflammation de la prostate. Mm-hmm. Voilà. Donc, et si on constate que cela s'accompagne de fièvre, des frissons, d'augmentation de la fréquence, des mictions, vous êtes là tout le temps à uriner, ça dit des urgences mictionnelles, on est là 2 minutes, on urine, après 5 minutes, on urine. Donc attention, c'est des signes qui ne sont pas bons. Et il faut toujours consulter un médecin.
Merci Abel. Et aussi et surtout, un homme, c'est d'abord l'érection, n'est-ce pas?
Oui, exactement.
Alors, quand l'érection devient difficile,
voilà,
ou bien l'érection ne tient pas la route, ça veut dire qu'il faut aller consulter.
Oui, c'est des signes qui poussent à consulter un médecin.
Merci. Voilà. Des gens derrière la vitre qui écoutent attentivement, ça peut être un signe, n'est-ce pas? Eh bien, nous continuons avec ces fatigues que nous pouvons ressentir par moments où nous avons l'impression de manquer d'énergie. Ce n'est pas normal non plus, Abel.
Tout le monde ressent de la fatigue. Tout le monde ressent de la fatigue. Et vous savez, la fatigue, souvent, elle est passagère. Et ses causes sont un peu plus claires. Parce que peut-être on a fait du sport, on a fait un travail. Et si on se repose un peu, on voit qu'on peut, retrouver du tonus, de l'énergie. Mais au cas où cette fatigue-là dure des semaines, voire des mois, attention, il y a un problème. Mm-hmm. Et pourquoi ? Parce que si on se sent fatigué et que le repos n'est pas le remède et à cette fatigue-là, donc on voit qu'il y a... Il y a une complication, on voit que cela peut cacher des maladies. Mm-hmm. Est-ce qu'on voit? Donc, par exemple, une fatigue qui ne s'atténue pas, ça peut cacher une maladie. Par exemple, l'anémie, par exemple.
Oui.
L'anémie, ça peut cacher peut-être aussi le diabète, par exemple. Donc, et dans cette parution, on recommande une certaine alimentation pour prévenir ou bien pour avoir du tonus, pour retrouver son énergie. Donc, on mise sur l'alimentation, on mise sur ce qu'il faut manger, notre assiette, pour qu'on retrouve du tonus, de l'énergie, quand on n'est pas...
Encore une fois, voilà. Comme Santé Éducation ne cesse de l'écrire, que notre assiette, que notre alimentation soit notre premier médicament. C'est ainsi que la parution nous recommande la consommation de fruits et de légumes qui sont riches en vitamine C, tout comme encore les aliments contenant du sélénium, les aliments probiotiques, des aliments riches en magnésium, encore les aliments contenant des protéines, les aliments riches en fer. On lira l'article, on verra toutes ces recommandations, toutes ces recettes. Mais après ça, ou bien pendant qu'on se conforme à cette alimentation, il faut aller voir un spécialiste.
Exactement,
pour
ça,
les cas de fatigue et manque d'énergie.
Il faut toujours consulter un médecin.
Merci. Nous continuons à la page 4 avec le poisson et ses vertus sur la santé que Santé Éducation nous rappelle.
Oui, tout le monde mange du poisson. Donc, ici, cet article nous montre un peu les vertus, l'importance nutritive des poissons. On a une variété de poissons sur le marché aujourd'hui. Mais si on veut avoir une bonne santé du cerveau et une bonne santé du cœur, il faut préférer les poissons. Parce que ces aliments sont très riches en oméga-3. Vous savez, les oméga-3, c'est des composés qui renforce nos systèmes nerveux et cardiaques. Mm-hmm. Quand il y a ce déficit ou bien ce manque d'oméga 3, cela peut favoriser la survenue des maladies neurodégénératives, des maladies cardiaques. Donc, cet article conseille à tout un chacun de consommer au moins 2 à 3 fois le poisson par semaine.
2 à 3 fois par semaine.
Voilà.
Et les poissons, nous avons la mer ici à côté. Exactement. On vient d'aménager le port de pêche avec l'espoir que les pêcheurs iront de plus en plus loin. Nous avons également nos plans d'eau, nos lacs, cours d'eau. Il y a le barrage de Nangueto avec les efforts que l'État et les privés font là-bas. Donc, encourageons ceux qui nous fournissent des poissons de bonne qualité chez nous et qu'on va compléter par l'importation.
Oui.
Merci, Abel. Je vois, tu viens de te coiffer il n'y a pas longtemps.
Oui, exactement. Je me suis coiffé.
Et sûrement que le coiffeur a utilisé une tondeuse pour te rendre un peu moins vilain.
Non, je suis bon, hein, ça.
Bon, ça, c'est ce que ta mère disait, que ta fiancée dit aujourd'hui. Mais la réalité, toi-même, tu la connais un peu. Mais redevenons plus sérieux. Les tondeuses de ces ateliers de coiffure peuvent être, bien malgré nous, des voies de propagation de maladies, n'est-ce pas?
Oui. C'est un appel qu'on lance encore à tous ces salons, à tous ces ateliers de coiffure. Il faut que les patrons d'ateliers, les coiffeurs, entretiennent bien les outils de travail. Vous savez, quand vous allez dans un atelier de coiffure, le premier outil qu'on voit déjà, c'est la tondeuse. Mm-hmm. Donc, quand c'est mal entretenu, vous savez, c'est un vecteur de maladie. Donc, de maladie comme l'hépatite, par exemple. Mm-hmm. Comme l'hépatite, comme le VIH, comme le sida, par exemple. Donc, c'est une alerte que nous lançons à l'endroit des salons de coiffure. Il faut toujours entretenir ces outils de travail. Et c'est pourquoi beaucoup ont compris, en fait, la nécessité d'avoir leur propre tondeuse.
Voilà.
Est-ce que vous voyez? Mm-hmm. Donc, certains ont leur propre tondeuse. Donc, je vais à un atelier de coiffure avec ma propre tondeuse pour me faire coiffer, pour éviter ces genres de maladies. Mais nous rappelons encore, nous interpellons encore les ateliers de coiffure à toujours entretenir, à veiller aux soins des outils de travail.
Donc, l'exhortation, c'est à deux niveaux. Oui. D'abord, dans les salons de coiffure, les coiffeurs, coiffeuses doivent prendre le plus grand soin de tout leur matériel, notamment la tondeuse, en l'entretenant, en le nettoyant, après usage.
Oui.
Maintenant, pour le public, ceux qui ont les moyens peuvent s'acheter leur propre tondeuse.
Exactement.
Qu'ils transportent sur eux. Merci beaucoup, Abel Ozi. Sans trop de commentaires, je te recommande l'article à la page 3. Fatigue, manque d'énergie, les aliments recettes. Tu sais pourquoi?
Non.
Non, no comment. Merci, Abel. Eh bien, les deux confrères qui devraient compléter le tableau me signalent qu'ils sont retenu à une conférence en ligne. Mais nous allons continuer avec l'espoir qui nous rejoignent incessamment. Et ce message s'adresse principalement à celui qui prétend qu'il est béni.
Oui, on va les attendre en attendant qu'ils ne viennent.
Nous allons les attendre en commençant les sujets de sociopolitique. Et ce que nous retenons aujourd'hui, vu l'actualité, c'est cette visite que Fornia Singbe doit opérer aujourd'hui à Paris auprès de son homologue français Emmanuel Macron. Il est annoncé que les deux chefs d'État devraient dîner en tête à tête ou peut-être entourés de leurs collaborateurs. Et à quelques heures de ce dîner, c'est le sujet qui fait la une de nombre de journaux, comme Le Messager qui écrit « Coopération bilatérale, fort chez Macron ». Autre journal, c'est Le Libéral qui nous rappelle « Fornia Singbe annoncé à l'Élysée ce 10 mai ». Pendant que autre journal, L'Économiste, écrit lui aussi « Fornia Singbe à Paris ce jour ». Togo Matin qui met également le sujet et les images à sa manchette. Coopération bilatérale, Fornyasing, invité par son homologue français à l'Élysée. La dépêche lui nous annonce les thèmes au menu de l'entretien entre les deux chefs d'État, savoir le terrorisme, des discussions. Le terrorisme sera au menu des discussions. Mais la dépêche se demande, et si Emmanuel Macron demande à son hôte, c'est-à-dire Fornyasingbe, d'amnistier les détenus et les exilés politiques. Sylvestre, voilà une visite annoncée et depuis un, deux jours, il y a un communiqué du gouvernement qui annonce cette visite de Fornyasingbe au palais de l'Élysée ce soir. Le communiqué du gouvernement ébauche déjà quelques sujets au menu des discussions, comme le confrère La Dépêche l'écrit. Coucou.
Oui, je crois que c'est dans l'ordre normal des choses que des chefs d'État se rencontrent pour discuter. Le communiqué du gouvernement parle donc de coopération, de relations bilatérales et tout. Notre confrère aussi parle donc de la question du terrorisme aujourd'hui. Ce n'est plus une affaire donc d'un pays, ça devient un phénomène mondial, le phénomène du terrorisme. Donc il urge que les chefs d'État puissent se retrouver et échanger sur ces questions-là et voir donc dans quelle mesure ils peuvent donc arriver à mutualiser leurs efforts, leur énergie, ne serait-ce que pour arriver donc à bout de ce virus-là, de ce virus pardon, qui est le terrorisme. Maintenant, au-delà, il y a d'autres qui estiment qu'il faudrait que Emmanuel Macron puisse demander à Fornyasingbe donc de libérer les détenus politiques. Moi personnellement, je crois que cela n'engage que moi. Il faudrait quand même qu'on puisse sortir de ce paternalisme-là. Il ne faudrait pas que c'est le colon qui nous dit ce que nous devons faire. Si le chef de l'État le souhaite ou le veut bien, il va libérer donc les détenus politiques. Et c'est ce que nous souhaitons d'ailleurs. Il ne faudrait pas que ce soit quelqu'un qui lui dit « va faire ceci ». Donc il faudrait que nous arrivions donc à sortir donc de cette image-là. Et apprenons donc à faire les choses par nous-mêmes et non à attendre à ce que ce soit le blanc qui nous dit de le faire. Voyez-vous donc que c'est vrai, bon, peut-être d'ici le soir, on aura les termes donc de discussion de ce tête-à-tête là, donc, et après on avisera. Sinon, en réalité, bon, c'est l'ordre normal des choses telles que je le dis, que deux chefs d'État se retrouvent pour échanger, donc voilà quoi. Il n'y a pas à trop communiquer.
C'est l'ordre normal des choses, oui. Que les chefs d'État du Togo et de France, oui. Qui ont des dizaines d'années de coopération bien avant l'indépendance. Tout à fait normal que ces chefs d'État se rencontrent pour évaluer la coopération entre les deux États et tracer de nouvelles pistes. Oui. Mais également, c'est de plus en plus une tradition qu'un chef d'État se retrouve rattrapé par des questions internes au cours de ces déplacements. Oui. Quelques jours avant Fornyasingbe, c'était Macky Sall qui s'était rendu à Paris. Et le séjour de Macky Sall à Paris a été mis à profit par la diaspora sénégalaise pour manifester. Donc c'est
à Londres ou
à Paris ou à Londres, je ne sais plus. Londres, finalement. Oui. Mais nous verrons ce qu'il en sera ce soir à l'Élysée. Mais déjà, des acteurs politiques se signalent, notamment quand elle rencontrait la presse, je crois, hier ou avant-hier, oui. La dynamique de la majorité, la DMP, a sorti une déclaration au terme de laquelle cette dynamique revient sur l'élection présidentielle de 2020. La DMP qui demande au président français d'user de sa collaboration aux côtés de Fornyasingbe pour le retour des gens comme Monseigneur Kodjo, Agbeyome, les détenus politiques, les exilés et autres. Et depuis ce matin, nous avons également connaissance d'une lettre ouverte adressée à Macron par tout un parterre de personnalités physiques et morales, au nom desquelles le professeur David Dosset, maître Dodia Pévon, Jean Kissi, le professeur Michel Goé-Akoué, maître Kokou Amégan, Kidekihim Binafam, l'association Tournons la Page, Synergie Togo, Collectif Togo Debout, Europe, et là je ne cite que quelques noms. Donc, tu as, je ne sais pas si tu as connaissance de cette lettre ouverte.
Oui, oui, j'ai vu la lettre circuler sur les réseaux sociaux. Mais bon, je crois que c'est de bonne guerre. Parce que lorsque vous voyez un peu notre passé, le passé politique donc, du pays, vous avez vu que la France a toujours intervenu. La France a toujours intervenu d'une manière ou d'une autre. Hein, même si nous prenons notre première histoire douloureuse, c'est-à-dire avec l'assassinat donc, du premier président démocratiquement élu, la France a toujours été citée comme étant donc, un pays complice, sinon donc, l'auteur de ce coup d'État et tout. Après, quand nous avons vu les élections donc, de 92 entre Jacques Chirac était intervenu... Jacques Chirac était intervenu. Plus tard, on a vu quand même une présence hein, de la France, même au décès donc, du président Yassine Adema. Jacques Chirac avait dit que c'est un ami personnel, un ami de la France et tout ça, au moment où les choses étaient véritablement difficiles, la collaboration entre les politiques et tout. Donc la France est toujours restée quelque peu présente même après donc, l'indépendance du pays. Donc c'est normal que d'aucuns pensent que c'est eux qui sont presque les faiseurs de roi au pays. Et donc ils demandent souvent donc, à la France de conférer ou d'échanger hein, avec, si vous voulez, ces éléments entre guillemets, afin qu'ils puissent accéder à un certain nombre de choses. Même il fut un moment, je crois que c'est en 2018, il y a un Togolais hein, qui a même interpellé la France au Canada et qui a interpellé Emmanuel Macron au Canada sur la situation togolaise et il a échangé, Macron a échangé avec lui et tout. Donc c'est normal qu'on puisse interpeller la France comme étant celui qui essaie donc de diriger, de manipuler donc les choses au Togo. Mais je pense que tel que je le dis, moi, c'est une concession personnelle, je le dis, il ne faudrait pas qu'on reste toujours rattaché à cette France, même si nous sommes quelque peu d'accord avec ceux qui pensent que la France joue beaucoup sur le plan politique dans ce pays.
Merci. Voilà. Cette lettre ouverte, signée par ce parterre de personnalités physiques et morales du Togo ou de la diaspora, évoque les cas des droits humains, de liberté de presse, de crimes économiques, notamment de corruption, et ils en viennent aux élections annoncées pour cette année, à savoir les législatives et les régionales, dont le premier acte, hein, le recensement électoral, continue à faire circuler beaucoup d'encre et de salive. Mais je suis d'accord un peu avec toi quand tu dis que la question togolaise devrait plutôt être traitée entre nous, Togolais ici, plutôt que nous les exportions hein, devant des chefs d'État étrangers. Et puis, c'est quand même un constat que depuis 2005, bien sûr, nous laissons le soin à Faure Gnassingbé et à la France d'évaluer la coopération entre lui, Faure Gnassingbé, et les différents chefs d'État français depuis 2005. Mais on peut dire que Faure Gnassingbé n'a pas toujours tenu à se faire voir à Paris tout le temps. Il s'est plutôt attelé à développer d'autres partenariats aux côtés de la France, naturellement.
Oui, oui. Lorsque vous écoutez Emmanuel Macron en 2018, je parlais donc de ce Togolais-là qu'il a interpellé. Lorsque notre compatriote lui a demandé à Macron, est-ce que vous allez inviter Faure Gnassingbé? C'était au temps chaud, donc est-ce que vous allez inviter le monsieur...
C'était au temps de la C-14 à l'époque.
De la C-14, avec cette insurrection impulsée par le PMP. Le chef d'État français avait dit, est-ce que je l'ai invité? Ouais, est-ce que je l'ai invité? Alors plus tard, quand le président Togolais a été reçu hein, par Emmanuel Macron du côté donc, du pouvoir, On a fait aussi trop de bruit, hein, parce que entre-temps, c'est la France qui essayait donc de faire voir une certaine rupture avec le Togo, mais après
une certaine distance.
Distance, oui, une certaine distance avec le Togo. Et au chef de l'État togolais aussi, quand nos confrères de Jeune Afrique lui avaient posé la question également en 2018, si il va rencontrer Macron, il dit que je suis pas demandeur. Donc, lorsque vous voyez un peu les termes qui fondent quand même leurs déclarations, sans que ce n'est plus le grand amour entre la France et le Togo, si nous prenons le temps donc, du général Yassingbé et Adema, Faure Yassingbé devient quelque peu distant en termes donc, de relations bilatérales et tout avec la France, même si on a vu même la position donc, du chef de la diplomatie togolaise dans le cadre donc, de ses relations avec le Mali, où le professeur Doucet disait au peuple malien, ou du moins Sassou Nguesso et à ses amis, que nous soutenons donc votre politique, ce que vous faites, vous êtes sur la bonne voie et tout, mais ce sont quand même des gens que la France ne porte pas. Mm-hmm. Voyez-vous donc, mm-hmm. Quand on voit toutes ces déclarations, sans qu'il n'y a pas, il y a une certaine distance entre la France et le Togo. C'est vrai, le Togo aussi, cela a permis, bon, peut-être plus ou moins au Togo, donc, d'avoir d'autres partenaires économiques et techniques, d'avoir d'autres pays. Aujourd'hui, le Togo peut échanger avec la Turquie et la Russie, mais on connaît un peu les relations entre la France et la Russie, entre la France et la Turquie. Aujourd'hui, donc, le Togo a diversifié ses partenariats avec d'autres pays, mais il fut un moment où ce n'est que la France, c'est la France et pas d'autres pays, voyez-vous. Donc, il y a tous ces paramètres-là qui entrent en jeu. Maintenant, est-ce que c'est un réchauffement donc, des relations diplomatiques avec le chef d'État togolais qui, je crois, en 2 ans, a fait déjà 2 ou 3 déplacements déjà en France et tout, ces 2 dernières années. Donc, on verra si les relations peuvent être réchauffées. Mais bon, tout dépendra donc de ce que nous aurons dans les prochains jours.
Merci. Et pour terminer ce sujet, provisoirement, selon le communiqué du gouvernement togolais, Faure Gnassingbé va se rendre à Paris à l'invitation de son homologue Emmanuel Macron. Voilà l'information officielle, les sujets que le communiqué du gouvernement annonce, les souhaits des médias comme la Dépêche qui demande que Macron demande à Faure Gnassingbé de libérer et d'amnistier les détenus politiques, les exilés politiques, la DMP et cette lettre ouverte qui porte un peu les mêmes doléances. Nous verrons la visite se faire aujourd'hui et ce qu'il en sera, et nous y reviendrons. Le sujet d'actualité c'est le recensement électoral qui vient d'être terminé dans la zone numéro 1, à savoir la région maritime et le Grand Lomé. Le personnel des CELI, les agents techniques et le matériel doivent sûrement être en train d'être déployés vers la zone 2. Je crois que c'est autour de 12, en fait, je ne sais pas trop.
Ça doit être le 13, je crois.
12-13 que ça va démarrer dans la zone numéro 2. Mais en attendant, la zone 2, revenons sur la zone 1 avec ce que la lanterne écrit aujourd'hui. Recensement électoral dans la zone numéro 1, malgré la prorogation, des milliers d'électeurs potentiels ont été laissés sans carte. Pour dire que, Silas Béni, justement, l'opération devait prendre fin le 6 mai. La CENI l'a prorogé de 2 jours, jusqu'au lundi 8 mai. Mais le constat a été fait qu'au soir du 8 mai, bon nombre de Togolais sont restés sur le carreau. Non pas qu'ils n'ont pas voulu se faire recenser, mais ils se sont déplacés dans les centres de vote. Mais pour telle ou telle raison liée à la CENI et aux CELI, les gens n'ont pas pu se faire recenser.
Oui, moi je crois que d'abord, si... C'est une violation. Moi, je crois que c'est une violation donc des dispositions de l'article 44 donc du code électoral, parce que c'est un droit pour tout Togolais donc d'aller se faire enrôler et donc de voter plus tard s'il le souhaite, puisque le vote pour l'instant n'est pas obligatoire. Mais c'est quand même un droit pour tout le monde, pour tout citoyen, donc d'aller se faire enrôler et avoir sa carte. Mais lorsque nous avions vu, on démarra du processus, il y avait tellement donc de dysfonctionnements. Il y avait tellement de dysfonctionnements, même certains ont passé toute une journée à ne rien faire, du fait donc des machines qui tombent en panne, du fait donc des consommables qui ne sont pas là. Quand je parle de consommables, je parle donc d'encre, je parle donc des cartes vierges. Il y a même de manque de carburant pour démarrer certains groupes électrogènes. Il y a tellement donc de problèmes au premier jour. Et donc, après, bon, on a constaté que le processus même est presque vicié, puisque lorsque vous avez deux machines dans un centre, par exemple, et que l'autre machine ne fonctionne plus, ils sont obligés donc de continuer avec une machine. Et vous sortez, vous voyez donc la queue. Certains ont confessé avoir fait 4 heures de temps, voire 5 heures, avant donc de se faire enrouler. Vous voyez que c'est véritablement un problème.
Et là, ils sont encore heureux. Il y a des gens qui ont témoigné en direct, qui ont passé au moins une journée, voire plus, avant
d'obtenir la fameuse carte. Voilà, donc moi je crois que, loin donc de faire le jeu des politiques et tout ça, même je crois aussi personnellement que les deux jours étaient véritablement insuffisants pour enrouler les Togolais, parce que lorsqu'on fermait, il y a nos confrères, notre confrère Togo Spook avait fait un reportage et tout ça. Certains venaient, mais on dit que c'est fermé, c'est 16 heures, on a fermé. Vous voyez, donc, il faudrait pas qu'on soit dans cette logique. Effectivement, j'écoutais Gérard Dja hier au cours de leur conférence, il disait que au niveau donc de Golf 5, il y avait beaucoup de Togolais. Il avait donné un chiffre que malheureusement j'ai oublié. Donc beaucoup de Togolais sont restés sur le carreau parce que on a estimé que bon, il est 16 heures, on a fini, c'est fini, et que tout le monde rentre chez lui. Je crois que c'est un véritable problème. Il faudrait que la CENI puisse penser à cela. Même s'il faut revenir dans la zone 1 pour ne serait-ce pour quelques jours encore, je crois que allons donc dans ce sens-là pour déjà décrisper l'atmosphère, puisque nous disons ce matin que les prochaines élections, ça sent déjà le Russie. Ça sent le Russie parce que lorsqu'on a ces dysfonctionnements-là, il y a au cours donc de sa conférence de presse, je crois le 4 mai dernier, il y a l'ANC qui parlait déjà donc de la CENI qui est déséquilibrée, et l'ANC est revenu donc sur les dysfonctionnements et tout. Donc, lorsque des gens commencent à avoir une certaine... Et puis, ils ont mis même quelque part dans leur communiqué qu'on croirait revivre ces manœuvres-là, consistant donc à frauder et tout. Vous voyez, si ces termes-là reviennent déjà les premiers jours de l'enrôlement, donc ça veut dire qu'il faut, on doit craindre le lendemain. Qu'est-ce que ça va donner? Vous voyez, il y a beaucoup donc de... Même le nouveau... Je sais pas, cette nouvelle formation... je ne sais pas s'il faut dire politique ou citoyenne, donc de Ouroako Tchagnao, qui a même écrit deux fois la CENI, en demandant à la CENI donc de reprogrammer l'enrôlement dans la zone numéro 1. Il y a d'autres, la DMP qui dit avoir reçu un certain nombre de plaintes des Togolais parce qu'ils n'ont pas été enrôlés pour ces raisons-là que nous venons de citer. Donc, s'il y a ces appréhensions déjà au tout début du processus, ça veut dire qu'on craint. Si après on ne programme pas les choses, on peut dire voilà, on l'a fait à dessein. Et puis il y a certains qui le disent déjà, ils disent que Lomé étant considéré comme un fief de l'opposition, donc que tout a été fait pour ne pas permettre à ce que les gens puissent avoir leur carte et voter, voyez-vous. Donc il y a déjà ce cliché là qui est là, donc ça risque donc de déteindre sur le processus. Et puis je ne comprends pas aussi la CENI qui donne c'est-à-dire que on donne une semaine pour Lomé. Or, au dernier donc recensement général de la population de l'habitat, on sait que dans le Grand Lomé et dans la région maritime, on est plus de 3 millions de Togolais. Donc, vous pouvez pas donner une semaine pour des gens qui sont à plus de 3 millions et donner encore une semaine pour des gens qui ont moins de densité. C'est-à-dire qu'on donne une semaine pour Grand Lomé et ses environs, et puis on va donner aussi une semaine dans la zone 2. Or, on sait qu'il y a une zone qui est plus peuplée que l'autre. Vous voyez, donc, il y a tellement donc, de choses qui n'ont pas été bien mûries avant donc, le lancement du processus. Donc, évitez à ce qu'on ait déjà ces quelques petits problèmes au départ qui risquent donc, de, véritablement de déteindre sur tout le processus qui est en cours.
Effectivement, le Grand Lomé et les préfectures des lacs Bamono, Vo, Yoto, Zio et Ave, selon le dernier recensement publié par
l'INSID,
c'est autour de un peu plus de 44% de la population qui sont comprises dans cette zone.
Oui.
Alors, est-ce qu'on aurait pu recenser toute cette masse de population
en une semaine,
dizaine de jours, surtout
possible.
Avec les dysfonctionnements, les ratés, tous les problèmes qu'on n'a pas cessé d'évoquer depuis le premier jour.
Depuis le premier jour jusqu'à la fin.
Nouveauté cette année, un regroupement comme la DMP a annoncé, bien avant même le recensement, qu'elle a mis sur pied une cellule,
un dispositif d'alerte. Oui.
Hein, pour signaler les problèmes au jour le jour. Entre-temps, l'ANC en a fait de même, et beaucoup d'autres, dont la LDP également. Et puis ces dysfonctionnements, difficultés, ont été reconnus par le gouvernement
justement
lui-même en Conseil des ministres le lundi dernier.
Oui, le gouvernement l'a dit en Conseil des ministres, hein, au titre des divers. Le gouvernement a reconnu qu'il y a donc des dysfonctionnements et tout, mais le gouvernement demande aux acteurs de corriger cela pour qu'on puisse tout faire dans la sérénité. Voyez-vous, donc si le gouvernement même reconnaît cela, il faudrait quand même qu'on trouve des formules, ne serait-ce que pour éviter déjà cela. Et pour la petite histoire, moi j'étais au CEG Gakli, hein, le dernier jour donc de clôture. J'étais là autour de 16 heures quand un véhicule de la gendarmerie est arrivé avec des éléments qui sont dedans avec des gaz lacrymogènes et tout. Parce que, entre temps, il y avait certains qui disaient que restez dans les bureaux de vote si vous n'êtes pas enrôlé, restez là-bas jusqu'au lendemain. Donc, ça veut dire que déjà la gendarmerie craint à ce que cela ne dégénère et eux, ils ont anticipé en venant donc avec un véhicule et des éléments qui sont dedans. Voyez-vous? Donc, si déjà on a ces signaux-là, il faudrait qu'on puisse anticiper pour que tout le processus ne soit pas véritablement vicié.
Et toujours dans la même dynamique de l'alerte, la manchette qui écrit ce matin la page 3, prochaine élection au Togo, ça sent déjà le Russie.
Oui, ça sent le Russie tel que je l'ai dit, parce que tous les éléments que nous venons donc d'évoquer, c'est et qu'il y a l'opposition qui le dit, il y a le pouvoir, c'est-à-dire... Bon, du moins, le gouvernement, même si on n'arrive pas à faire le distinguo entre le pouvoir et le gouvernement, c'est Pierre et Paul. Donc, au moins, il y a le gouvernement qui reconnaît cela. Et la question a été discutée au Conseil des ministres. Donc, ça veut dire que le problème est réel. C'est pas une invention. Maintenant, il faudrait que le gouvernement puisse anticiper les choses et voir dans quelle mesure la CENI peut revenir, ne serait-ce que dans la zone 1, pour... je ne sais pas si c'est 4 jours encore ou 5 jours, comme ça, pour que les Togolais puissent exercer ce droit-là d'avoir leur carte. Sinon, c'est important. On ne peut pas les laisser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... ils ne sont pas des Togolais entièrement à part. Ils sont Togolais comme nous tous. Nous qui avons notre carte, eux aussi doivent avoir leur carte. C'est un droit. Donc, il ne faudrait pas que la CENI puisse empêcher certains qui le désirent. Hein, la dernière fois, il y a d'autres confrères Togoscoop qui dit il y a une personne donc de troisième âge qui est venue même avec sa canne et qui s'est fait reborquer, mais on dit c'est 16 heures, c'est fini. Vous voyez, donc c'est pas quoi, c'est pas quelque chose de, c'est pas sacré que, non quoi, c'est fini, que c'est fini. Non, c'est-à-dire que si nous voulons bien faire les choses, commençons déjà à éviter ce petit problème-là.
Alors, si nous parlons tant du recensement, c'est qu'il y a une forte mobilisation des populations. D'un côté, les difficultés, les dysfonctionnements, les ratés de la CENI de l'autre. Alors justement, même si le libéral nous écrit ce matin les raisons de la forte mobilisation, selon toi, qu'est-ce qui explique que subitement, de 2018 à 2023, les Togolais redécouvrent cet engouement à aller se faire recenser pour obtenir leur carte d'électeur?
Non, moi je dis, en fait, le Togolais en soi aussi, c'est également un personnage abyssal, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas cerner aussi le Togolais. Parce que moi j'ai été surpris donc de cet engouement des Togolais. Hein, beaucoup donc se mobilisent à avoir la carte. C'est vrai qu'au niveau donc de de la masse, chacun donc les raisons. Certains pensent que c'est pour c'est pas un éventuel novice. Hein, si le gouvernement veut faire des transferts monétaires aux gens, donc au moins, je sais que j'ai ma carte et puis on peut l'utiliser. D'autres parlent donc de microfinances parce que les dames qui n'ont pas donc de carte d'identité peuvent utiliser cette carte-là, ne serait-ce que pour faire donc des prêts au niveau des microfinances. Mais ça, je crois que c'est le vote, le jour du vote, qui nous permettra véritablement donc d'avoir la raison fondamentale. Mais hier, j'étais à la conférence de presse donc de la DMP, où l'un donc des responsables disait, bon, en évoquant donc les grandes écoles, disait souvent lorsqu'on voit cette mobilisation, cet engouement là, donc des peuples à avoir donc la carte pour aller voter, souvent ça va en faveur donc de l'opposition. Et il a cité, bon, il a donné ses raisons en citant toutes les grandes écoles et autres. C'est pourquoi ils disent que, voyant donc l'engouement, certains où le pouvoir est déjà dans ses manœuvres, ne serait-ce que pour laisser beaucoup de personnes sur le carreau. Donc, pour revenir peut-être à la question, pour l'instant, nous ne serons véritablement donnés avec précision
ce qui
explique cet engouement, cette forte mobilisation. Mais là où c'est devient important, c'est que au moins aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont donc leur carte. Ils reviennent maintenant aux partis politiques de les convaincre. Peut-être que certains sont allés faire la carte, mais ils ne veulent, pour l'instant, ils n'ont pas décidé d'aller voter ou non. Donc, il revient aux politiques maintenant de tenir donc le bon discours pour convaincre ces gens-là à aller voter donc le jour J, donc pour avoir véritablement bon pour celui ou celle qui pense à mesure donc d'être dans conseiller régional ou député. Mais il y a aussi certains qui disent que la législature que nous avons aujourd'hui n'a véritablement pas été l'incarnation donc du peuple, ne représente véritablement pas le peuple. Il y a certains aussi qui le disent. Vu la manière dont nous sommes allés aux élections en 2018, je crois, le 20 décembre 2018, donc ils disent que ce serait également un vote sanction, ne serait-ce que pour balayer ceux qui sont là aujourd'hui et qui ne font peut-être des propositions de loi que sur les réseaux sociaux.
Voilà, ce ne sont que là que des supputations, analyses des uns des autres. Eh bien, cette mobilisation qui a été réelle dans la zone numéro 1, nous attendons de voir s'il en sera de même dans les zones 2 et 3 pour le recensement. Ça, c'est 2. Et puis de 2, nous verrons si cette mobilisation pour obtenir la carte d'électeur va se réaliser également le jour des élections, à savoir législatives et régionales, au programme de cette année. Mais sauf que, Sylvette, pendant que nous sommes aujourd'hui le 10 mai, nous ne savons pas encore à quelle date nous irons aux urnes, soit pour les législatives, soit pour les régionales, l'une après l'autre, ou bien pour les deux ensemble. Là, c'est quand même aussi...
Non, je crois que c'est également quelque chose qui est donc à revoir. La CENI ne peut pas enclencher le processus. Et aujourd'hui, nous ne savons pas quand est-ce que nous irons donc aux urnes et comment cela va se faire. C'est vrai, bon, peut-être dans les coulisses, dans les confidences d'un certain nombre d'acteurs, il est souvent dit que ce serait donc quelque chose donc de cumulé, c'est-à-dire on fera et les régionales et les législatives ensemble. Donc, mais bon, si on peut peut-être voir le timing, élection en décembre 2018, donc pour les législatives, on sait qu'au moins 3 mois avant la fin donc de la mandature, on doit faire donc les élections. Donc, disons que déjà au plus tard en octobre, en septembre, octobre, on sait qu'on doit normalement faire donc les élections, aller donc aux urnes. Alors, mais il faudrait véritablement que c'est la CENI qui donne la date. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on en fait donc un secret pour un processus qui est enclenché. Les gens sont allés, ils sont allés donc prendre leur carte. Maintenant, ils attendent qu'on leur dise. Demain ou après-demain, vous allez voter. C'est pas bien, quoi. Donc, tout cela aussi doit être revu pour que on puisse au moins pour une fois aller aux élections dans la paix et que la vérité des urnes soit consacrée. Celui qui le mérite, on lui donne et puis bon, voilà, quoi.
Élection que nous souhaitons le plus paisible possible, mais on nous dira que les élections paisibles devront être la conséquence d'élections transparentes laquelle transparence demande que la CENI nous situe avec un chronogramme clair.
Oui.
Nous en sommes au recensement électoral aujourd'hui. La CENI devait nous communiquer, après les opérations d'enrôlement, quand est-ce que les listes électorales seront affichées.
Oui.
Quand est-ce que les gens pourront faire des recours,
oui,
éventuellement les listes électorales. Et également, quand est-ce que les campagnes électorales seront ouvertes et clôturées, ceci pour permettre et au gouvernement, surtout aux forces de sécurité, de prendre les dispositions, mais aussi surtout aux partis politiques de savoir programmer les actions en conséquence. Tout ça, nous sommes dans le flou.
Justement, ça doit permettre déjà aux partis, même avant donc de commencer le processus d'enrôlement, les partis politiques doivent savoir quand est-ce qu'on aura le vote. Donc, mm-hmm, déjà au niveau donc de chaque état-major, on doit déjà avoir donc un programme, un déroulé, et voir ce que nous pouvons faire en ce temps-là, avant qu'on ne puisse aller au vote. Mais si la CENI garde cela comme un secret et que nul ne doit savoir, je crois que ça pose également, ça pose un problème. Ça pose un problème. L'autre, c'est que ce n'est pas une fixation sur la CENI, mais cette CENI, je la comprends pas. C'est une CENI qui ne communique pas. Vous avez vu que il n'y a pas d'échange avec nos confrères. On ne communique pas assez sur le processus. Vous voyez? Donc, on ne sait pas comment les choses se passent. Nous aussi, nous ne savons pas. Pour en parler, c'est-à-dire que je suis incapable de dire aujourd'hui comment est-ce que la CENI fonctionne et qu'est-ce qui est fait, tout cela. Donc, puisqu'ils n'ont pas appelé la presse, il n'y a aucune discussion avec la presse. Vous voyez? Donc, je crois que c'est au premier jour quand les dysfonctionnements ont commencé que j'ai appris que le président a rencontré quelques médias pour se prononcer sur les dysfonctionnements. Et après, bon, basta. Vous voyez?
En tout cas, donc, nous rappelons à la CENI que le gouvernement, en conseil des ministres, lundi, souhaitait vivement que les dysfonctionnements et difficultés constatées dans la zone numéro 1 soient corrigés afin que le reste du processus se déroule très bien. Le président Dago Yabré et ses camarades doivent se le tenir pour dit.
Oui.
Alors, un parti politique qui fait l'actualité, bien malgré lui aussi, c'est le cas, le Comité d'action pour le renouveau, qui était à son 5e congrès électif, qui s'est plutôt terminé sous une forme de fiasco. Nous en avons parlé. Mais si nous y revenons, c'est qu'il y a un nouveau développement. L'un des candidats pour présider le cas, à savoir Togbé Dagban, a finalement jeté l'éponge il y a quelques heures.
Oui, il était donc dans une émission avec une radio sœur où il est revenu un peu sur le film de ce qui s'est passé, sur le film donc de ce fiasco-là. Lui-même, il le reconnaît, il dit que c'est un fiasco parce qu'il estime que c'est vrai que quand on prend donc les tests du cas, il faut trouver un consensus parce que le consensus était et l'objectif c'est de ne pas en fait aller donc à une exclusion d'un certain. Si on n'arrive pas, c'est-à-dire si on n'a pas de consensus qu'on doit aller au vote, cela pourrait exclure un certain nombre donc de militants parce qu'ils ne se reconnaissent pas donc au président ou au bureau qui est élu. Donc depuis la naissance du parti, ils font tout pour avoir un consensus. Il y a un bureau qui est présenté, qui est élu, et tout marche. Maintenant, mais sauf que les tests sont prévus aussi que, à défaut de consensus, c'est-à-dire que lorsqu'on n'arrive pas à dégager un consensus, alors là, on peut aller au vote. Et puis, il estimait que lui, il a eu 18 délégués et que Yao Daté, l'autre candidat aussi, a eu 26 et tout ça. Il y a d'autres candidats qui n'ont pas eu donc de délégués.
Jean Kissi et Madame
Akosiwa Yemé. Et donc, normalement, eux ne doivent pas être exclus, si on peut le dire, ne doivent pas être plus dans le processus. Mais malheureusement, qu'il y a d'autres pesanteurs qui font que ils sont là et que il est dû ouvertement qu'aujourd'hui il y a deux camps. Il y a donc le camp de Vaux, conduit par Jean Kissi, et le camp de Yotor qui est piloté par et Yao Daté, que c'est les deux camps là qui véritablement bloquent donc l'avancée des choses. Et donc lui il a jeté l'éponge, sauf qu'il a aussi fait une déclaration sur laquelle nous sommes revenus ce matin, parce que il disait que par consultation ésotérique, il a pu échanger avec Maître Yahvi Agbeibo. Mm-hmm. Et que...
Depuis l'au-delà.
Depuis l'au-delà. Vous savez, nous sommes en Afrique. Hein? Donc, nous, toi et moi, on n'a pas quand même ce pouvoir-là. Donc, il faudrait qu'on se taise. Alors, il dit qu'il a pu échanger avec lui. Et donc, Agbeibo a déploré le fait qu'il n'y ait pas un rituel pour lui enlever le pouvoir. Qu'il a encore sa main sur le parti. Et donc, c'est ce qui peut expliquer ces tumultes-là, tout ce qu'on a vu, hein, le désordre donc qu'on a vu les 29 et 30 avril dernier, et qu'ils avaient véritablement estimé, ils avaient véritablement voulu faire ce rituel-là avant que son dernier voyage, avant qu'il ne soit inhumé, mais ils n'avaient pas pu. Donc, on doit véritablement faire ce rituel-là parce qu'il a échangé avec Agbeibo. Et Agbeibo déplore qu'il a encore la main sur le parti, sur le cas.
Mais comme c'est une communication, il y a quand même la confidentialité de la communication.
Oui.
C'est ce que Dagban dit avoir échangé avec Agbeibo. Nous laissons les deux.
Les deux.
Dagban ici avec nous.
Et Agbeibo qui est depuis là-bas.
Gérer cela. Voilà. Merci Sylvestre Béni. Nous allons évoquer deux articles avec quelques... articles avant de terminer la première partie. Alors, toujours en politique, tu nous emmènes un peu au Sénégal.
Oui.
Le Sénégal qui connaît également une actualité politique vraiment bouillonnante. Et tu écris aujourd'hui dans ton journal que l'opposant Ousmane Sonko, qui vient d'être condamné en appel à 6 mois de prison et à des millions, 6 mois de prison en sursis et également des centaines de millions. Pour diffamation et injure, lequel Ousmane Sonko s'est adressé à ses partisans hier. Là, nous sommes au Sénégal.
Oui, là, nous sommes au Sénégal. Et puis, il y a également une manifestation qui est prévue pour le vendredi prochain, dans ce contexte-là. Vous savez que Ousmane est comme l'un des candidats déclarés donc à la présidentielle sénégalaise. Depuis son annonce, on voit véritablement qu'il subit un peu de pression, surtout du parti au pouvoir de Macky Sall, qui n'a pas encore dit s'il va donc candidater, s'il sera encore candidat pour un troisième mandat. Et donc, l'homme subit tellement de pression. Et ce procès-là, beaucoup disent que c'est un procès politique, ne serait-ce que pour l'écarter de la course présidentielle, puisque si vous êtes condamné, tout ça rétrécit donc votre chance d'être candidat. Mais tout cela, on l'observe. Mais ce que je crains, c'est que généralement, pour les manifestations au Sénégal, c'est des biens qui sont brûlés, parfois des morts d'hommes et tout ça. Et il serait souhaitable, il serait bien que le président Macky Sall puisse se prononcer. Parce que
on te dira que Macky Sall observe la séparation des pouvoirs.
Non, il faudrait que lui-même il puisse se prononcer pour dire « Non, je ne suis plus candidat parce que, en fait, c'est le nom du problème. Mm-hmm. C'est le fait que certains le soupçonnent de briguer un troisième mandat.
De vouloir briguer.
Bon, de vouloir briguer un troisième mandat. Et donc, il essaie donc de tirer un peu sur les ficelles, puisque le ministre qui a porté plainte, il essaie donc de tirer sur les ficelles pour que Sonko soit condamné comme ça. Et ce sera donc un candidat de taille de moins. Voyez-vous donc... que le président, tu as fait 2 mandats, il faut partir. Lui-même, il s'est levé contre le troisième mandat d'Abdoulaye Wade. Voyez-vous? Et même en 2007, il était même le directeur de campagne donc d'Abdoulaye Wade. Après, il s'est levé contre Abdoulaye Wade, contre le troisième mandat. Maintenant, c'est quelqu'un aujourd'hui qui se lève contre lui pour son troisième mandat. Il essaie donc de lui poser la peau de banane et tout ça.
Je veux rappeler que Ousmane Sonko vient d'être condamné en appel à 6 mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA pour diffamation injure suite à ce procès que lui fait le ministre Mam Mbaye Niang. Mais ce n'est pas fini. Une autre affaire judiciaire pour laquelle le même Ousmane Sonko devait comparaître dans le jour suivant. Cette dame qui lui fait procès.
Tentative de viol
et consort. Nous verrons cela et nous en parlerons. Du Sénégal, continuons par la Côte d'Ivoire, où c'est l'ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien rebelle, Guillaume Soro, qui a des problèmes, jugé, condamné par la justice de son pays. Il y a même un mandat d'arrêt contre lui, mais il a quand même trouvé les moyens par la technologie de sortir une vidéo depuis
là où il se cache, il se trouve. Donc, il a parlé donc à ses partisans un an après donc, son silence. Donc, il a expliqué pourquoi il a gardé le silence et que pourquoi maintenant il a préféré donc sortir pour évoquer donc les sujets qui intéressent donc les Ivoiriens. C'est vrai que depuis là, il y a un mandat qui est lancé contre lui. Mais bon, l'homme aussi étant ancien premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien rebelle, oui. C'est important aussi, ancien rebelle.
Et ancien syndicaliste, ancien leader étudiant.
Donc, c'est quand même, il a un bon carnet donc, d'adresse, ne serait-ce que pour revenir Laurent Gbagbo, c'est possible.
Voilà. Voilà, on suivra cela. Maintenant, nous allons revenir chez nous ici, terminé par ce clin d'œil que la Manchette fait à nos artistes, aux artistes togolais. La Manchette demande aux artistes togolais de se responsabiliser ou se voir contraints de 3 points de suspension.
Bon, en fait, c'est pas mon journal, c'est pas la Manchette qui le dit, mais c'est la ministre Myriam de Souza qui a fait donc une sortie.
Myriam Dessous d'Almeida.
Dessous d'Almeida, oui. Voilà. Dessous d'Almeida, voilà. Ok, c'est d'accord.
Myriam Dessous d'Almeida.
Voilà.
Née Dessous, mais épouse d'Almeida.
Ok, maintenant ça se comprend le mieux. Mm-hmm. Alors, c'est elle qui a fait donc une sortie sur sa page Facebook où elle s'est prononcée sur le contenu ou le message donc, de nos artistes. Et c'est elle qui disait justement qu'il faudrait quand même que nos artistes se responsabilisent ou se voient contraints. Parce que lorsque vous prenez aujourd'hui, pour la plupart, les messages ou le contenu donc, de nos artistes, vous verrez que il y a trop donc, de vulgarité, il y a trop donc, de perversité. Et même, il y a même un des artistes qui a causé un souci en décembre 2022 à trois directeurs, à l'EPP en foin, où il y a un artiste qu'on appelle Connie Gangster, je crois, qui est parti, donc il a presté, il fait une prestation, et donc le contenu de son message n'a pas plu donc au ministre Kokoroko, qui, comme il le fait, il a sorti un arrêté, ne serait-ce pour relever trois directeurs donc, de leurs fonctions, pour manquement à la protection donc, des mineurs. Vous voyez, et lorsque vous prenez la chanson qu'il a exécutée, franchement, il y a des choses que beaucoup donc, de nos artistes doivent revoir. Il y a certains qui font aussi presque la promotion de la drogue dans leurs chansons. Vous voyez, lorsque vous prenez des choses comme ça, à quoi est-ce que cela participe à la formation, à l'éducation? Les artistes, je le dis, ce sont quand même des gens qui sont porteurs donc, de messages, et il faudrait quand même que ce message-là soit sensé et qu'il participe donc, au développement donc, du pays. Donc, c'est une sortie que nous avons trouvée très intéressante, ce que nous avons repris dans nos colons pour que nous tous, nous soyons quand même dans cette logique-là. Voilà, chanter bien, mais chanter sensé, en fait.
La ministre développant la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Myriam Dessous d'Almeida, qui demande à nos artistes de se responsabiliser ou ils se verront contraints de se responsabiliser parce que ces artistes ont beaucoup de fans parmi la population jeune et devraient symboliser de bons exemples en matière de vertu de valeur. C'est ce que leur demande Myriam. Il est 11h, il est 12h. Merci, bravo à Sylvestre Béni. À défaut d'être innocent, tu es quand même en bonne voie. Nous allons marquer une pause le temps que Michel Tominga adresse les clins d'œil de Canal FM à nos partenaires. Et puis, nous continuons avec les auditeurs qui vont composer le 22, 21, 33, 74 ou le 91, 36, 63, 75 pour nous faire revenir sur les sujets de santé, éducation, ou bien de la visite de Faure Gnassingbé ce soir à Paris, ou encore le recensement électoral et ces petits articles que la Manchette a fait sur le Togo, notamment le cas Ousmane Sonko du Sénégal, ou encore Guillaume Soro de la Côte d'Ivoire. 93.5. Eh bien, c'est parti avec nos chers et bienveillants amis auditeurs. Vous avez suivi sur des questions de santé la visite de Faure Gnassingbé à Paris aujourd'hui, le recensement électoral, le congrès du CAR et les suites, et l'association sociopolitique au Sénégal en Côte d'Ivoire et l'exhortation de la ministre Myriam Dussou au monde de nos artistes. La parole est à vous.
Auditeur, bonjour. Monsieur Kofi.
Oui, monsieur Kofi, bonjour.
Oui, bonjour à vous également.
Oui.
Félicitations à votre collègue.
Ah, Sylvestre Béni. Qui
a tenu pendant une heure de temps.
Vraiment.
Et ce n'est pas gratuit. Merci. Par rapport à la visite du chef d'État à Paris,
oui.
C'est tout à fait normal. Le monde est aujourd'hui un petit village.
Mm-hmm.
Et Togo a besoin de partager ses relations avec les autres pays, oui, afin de se développer.
C'est ça.
Seulement que ça rapporte plus à nous, puisque c'est nous qui avons plus besoin du soutien des autres.
Mm-hmm.
Eux, ils ont déjà beaucoup pillé nos ressources. C'est maintenant à nous de chercher le retour. Que le chef d'État ne donne plus, pas plus que ce qu'il va recevoir. C'est mon souhait.
Merci beaucoup.
Maintenant, par rapport au recensement,
oui,
ça a été vraiment un fiasco.
Mm-hmm.
Ça, je vais vous dire, ma femme a passé 5 jours pour se faire enregistrer.
Dans quel quartier ça?
Au quartier d'Abarakondji.
D'Abarakondji.
Oui, ça a démarré le samedi. Le dimanche, elle est allée au CG d'Abarakondji. Elle n'a pas pu se faire recenser. Le lundi, même chose. Le mardi, même chose. Et le mercredi, on lui a suggéré d'aller à l'école El Shaddai, que c'est mieux là-bas. Là-bas aussi, elle n'a pas pu faire, avec un enfant de 5 mois. Et ce n'est que le jeudi qu'elle est allée à Kanikopi pour se faire enregistrer.
Mm-hmm.
Elle a dû d'avoir envoyé sa carte la veille pour se faire inscrire sur une liste là-bas.
Voilà.
C'est un fiasco,
mais votre épouse, elle est téméraire, hein?
Oui.
Et vous-même?
Moi, je l'ai fait le samedi. C'est grâce à des concours de circonstances que j'ai réussi à faire ça le samedi.
Mm-hmm.
Lorsque je suis arrivé le samedi, autour de 5h10, je me suis inscrit sur la deuxième liste, opposition 11. Il a fallu qu'il y ait un manque de fiches. Et un agent qui n'était pas du tout content a voulu fouiller les poubelles pour voir les fiches qui n'ont pas servi avant qu'on puisse les réutiliser avec les blancos.
Mm-hmm.
J'étais obligé d'aller l'aider à fouiller dans les poubelles. C'est comme ça que je suis parvenu à rentrer dans la salle. Sinon, je ne pouvais pas le faire le samedi.
Voilà. Merci beaucoup, l'ami Kofi, pour ce témoignage. Vraiment, bravo à votre épouse. Hein. Je découvre que ce que femme veut, elle le veut vraiment. Merci à l'ami Kofi qui passe le témoignage.
Allô.
Suivant. Bon, oui, bonjour.
Allô.
Oui, bonjour. Allô, l'ami en ligne. Il est parti. Ou bien il va revenir. Allô, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Monsieur Sass.
Oui.
C'est Papa Sordinet.
Depuis un monsieur V.
Voilà.
Mais on dirait que vous manquez de tenues aujourd'hui, Papa Sordinet.
Ah bon? Maintenant ça va.
Ok.
je voulais parler du côté du président de la CENI.
Oui.
On dirait qu'il prend part déjà à l'enroulement. Parce que voyant l'enroulement, comment ça a pris l'engouement, zone 1, une fois que peut-être la zone 1 est pour l'opposition, même les 2 jours qu'on a dit qu'on a augmenté là,
oui,
ça n'a rien servi.
Mm-hmm.
Puisque de part, il y a l'acte qui finit, il y a la pâte qui finit, il y a la machine qui tombe en panne. Et tout ça là, on dirait que le président de la CENI ne veut pas qu'on ressent tout le monde.
Mm-hmm.
Donc, il n'a qu'à essayer de penser à ça et en donner encore 2 jours pour que tout le monde puisse s'enrôler.
Autrement dit, accorder quelques jours encore à la zone numéro 1.
Merci.
Je vous en prie, Papa Sordinet.
Allô.
Le troisième, bonjour, oui.
Bonjour, monsieur.
Oui, c'est monsieur.
Monsieur Joseph.
Depuis?
Le Baston.
Nous vous écoutons, Joseph.
Oui, je vais vous dire, ma femme a fait 3 jours pour se faire enrouler.
Uh-huh.
On avait inscrit son nom. Lorsque son tour arrive, on lui refuse. Les gens venaient glisser 500 000 francs avant qu'on les enregistre.
Oui.
Donc, elle était obligée aussi de donner les 500 avant qu'on lui fasse rentrer pour l'enregistrer aussi.
Ah bon?
Je vous parle ça avec des preuves.
C'est assez grave, hein, l'ami.
Je vous dis, c'est moi qui vous dis, elle est là. Elle n'est pas la seule qui a donné.
Mm-hmm.
Il y a un ami aussi qui m'a confirmé aussi qu'au niveau de Badawo, là, lui aussi même, c'est pareil.
Mm-hmm.
Donc, essayons de voir ça.
Voilà.
Parce donc, que
les membres du bureau.
C'est un travail que les gens sont en train de faire, on les paye.
Oui.
Donc, il ne faut pas essayer de gâter le nom du gouvernement.
Oui.
On ne vous a pas envoyé pour ça. Maintenant, ceux qui font comme ça, là, si ils demandent un emploi à quelque part qu'on lui donne, est-ce qu'ils peuvent assumer ça?
Mais c'est assez gravissime, hein.
C'est grave,
ces accusations qui reviennent avec certaines récurrences. Décidément, le président de la CENI, hein, il a du boulot, hein, pour discipliner ses troupes.
Parmi eux, il y a d'autres, même, ils ne savent même pas composer les lettres. Tu leur donnes même la carte pour composer même le nom. Avec la carte même, c'est compliqué encore pour eux.
Mais ils ont été cooptés dans les CLC ou bien comme opérateurs de saisie.
Je ne sais même pas.
Ah, c'est lundi que notre ami Jacques Jacouti disait que on devrait auditer déjà, hein, notre CENI là, et cela permettrait de se rendre compte, hein, de tout ce dont nous nous plaignons, si on veut surtout que la suite du processus se déroule bien. Le suivant, allô, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Nyamavo.
Monsieur Nyamavo.
Salut le plateau.
Nous vous saluons aussi.
Oui, juste saluer et remercier la ministre pour l'idée sur les artistes qui chantent les Ndidjinyumbawekbol. Nos petits enfants de jardin d'enfants chantent à la maison. Comment on va faire pour retirer ça dans la société?
Mm-hmm.
Parce qu'il y a les jeunes de 13 ans, 14 ans, plutôt en ville ici. On est tellement regroupés dans des maisons tellement qu'on ne sait même pas comment faire, comment réagir. Comment on va faire pour retirer ça? Parce que les enfants chantent, on interdit ça. À l'école, on sensibilise, mais arriver à la maison, on n'arrive pas à dormir avec ces chansons.
Voilà, voilà.
Vraiment,
voilà.
Si elle va faire autrement pour qu'on puisse retirer ça totalement de la société.
Donc vous confirmez que certains de nos artistes donnent de très mauvais exemples à la population jeune?
Oui, oui, oui. Par rapport au recensement,
oui.
Moi, je ne suis pas surpris. Hein. Vous allez voir que la fonction a été repatriée en 2002.
Oui.
Et c'est en 2005 que le président a pris le pouvoir. Les enfants, là, ont 18 ans pour voter aujourd'hui.
Mm-hmm.
Or, quand on fait le pyramide des âges, c'est la base qui est large. Donc, ensuite, avec les parents, ils ont constaté qu'aujourd'hui, certains opèrent dans les banques, dans les microfinances avec les cartes. Et ça leur fait des passeports. Quand il s'agit de novices, là, bon, peut-être si c'est une réalité, il ne faut pas que la population en pense à Novici. Vous allez constater qu'après Novici, le gaz est allé à 5 000. Donc, quand ils attendent prendre quelque chose de l'État, après, c'est augmentation des taxes. Donc, s'ils ont le projet là, ce n'est pas ça. C'est plutôt la citoyenneté, le patriotisme qui a animé les Togolais. Et ils sont allés se faire recenser. J'ai un appel à l'opposition d'aller en rang bien serré pour cette fois-ci.
Pour capitaliser cette mobilisation le jour des prochaines élections.
Merci.
Je vous en prie, l'ami Nyamavo. Merci. Le suivant. Bonjour. Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Bonjour, depuis Dalico.
Monsieur?
Lamboni.
Lamboni depuis Dalico.
Entre le collège.
Oui. La communication n'est pas très bonne. Oui.
Ils ont pris plus de toutes les classes. Même moi, je suis né avec les cheveux blancs. Quand je suis arrivé, je tenais la cape. Et ils m'ont fait recenser. Ma femme a surpris jusqu'à Banepédo 500.
Mm-hmm.
Avant qu'on me dise, je t'avais dit la cape. Et ma petite soeur, la femme de mon petit frère, ils sont à 5 ans. Ils étaient obligés de causer 500 dans les on leur a fait. Est-ce que c'est normal?
Dans quelle école ça veut dire l'ambolie?
Au fond, là, je le connais. Et on appelle ça quartier Belgique.
Quartier Belgique. Quartier Belgique.
Quartier Belgique.
Oui, quartier Belgique, à Sobocito.
Oui.
C'est vraiment gravissime, hein.
Les
gens qui se mobilisent, allaient se faire recenser, qui passent 2-3 jours et à qui encore on prend de l'argent avant de leur établir la carte d'électeur.
Allô?
Oui.
Bonjour, bien-aimé Sassou.
Bonjour.
Félicitations pour le travail que vous avez fait.
Je vous en prie, l'ami Philippe. Faites du bien.
Et je pense que, je vais le dire tout haut, le gouvernement, on dirait qu'il fait semblant de ne pas voir la réalité du terrain. Ce que cette CENI a fait pour les Togolais cette année, c'est du fiasco. Ça ne se fait pas. Si même le président Faure peut se rappeler de 2005 à ce jour, vous venez de faire l'analyse, un auditeur aussi l'a fait, que nos enfants auront 18 ans.
Ceux qui sont nés en 2005.
Et ils doivent avoir cette carte pour accomplir cette tâche patriotique. Et les gens vont perdre 3 jours, 72 heures, d'autres même 5 jours. Vraiment, c'est de n'importe quoi. Et quand l'opposition en appelle, venez sur le terrain, venez regarder, on va nous dire que c'est faux. Mais si on veut donner la parole à cette population en live, vous allez voir même des vidéos qu'on va vous rapporter comme preuve. Quand on vous dit qu'on prenait 500 000 francs, moi-même j'en ai vu, hein, ce n'est pas de pagaille. J'en ai vu à l'école technocrate ici, à Dido Gomé. Les deux écoles technocrates, j'en ai vu là-bas. Ce n'est pas du pagaille. Alors que ces agents, on les paye. Et vous allez voir le dernier jour, c'est de l'alcool qu'ils partageaient.
Mm-hmm.
Ils buvaient, ils faisaient la fête. Il y en a même qui se querellaient même à cause de ces agents collectés. Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Même si vous voyez la majorité qui décide d'avoir cette carte. Face. Je vous dis, pour avoir le certificat d'origine, il faut dépenser plus de 10 000. Pour avoir la nationalité, c'est 5 000 francs la quittance. Mais il faut voir la corvée. Pour avoir la carte d'identité, c'est 5 000 la quittance. Il faut voir la corvée. Et tout le monde se dit maintenant que la carte d'électeur nous sauve. C'est notre Jésus. Et au moins, si j'ai ça, ça va m'aider. De passage, notre ministre frère Kokoroko dit, si tu n'as pas de nationalité togolaise, tu remplis une formule et une demande, on t'accepte sur le campus. Et ces étudiants également qui n'ont pas de nationalité veulent s'enrouler pour avoir au moins la carte d'électeur, ce problème. On est où là? On est où là?
Je pense que...
Et ce président de CENI va rester devant la télé pour nous dire que tout est bien passé. On remercie le petit Jésus. Fognatimbe, bravo, tu as bien travaillé. Sachant pertinemment que le travail a été bâclé. Les gens qui n'arrivent même pas à reconnaître majuscule de minuscule, on dirait même qu'ils n'ont même pas fait le PC4. Comment on les a formés? L'honorable Jerry Tamé était passé sur une chaîne qui disait, mais ce n'est pas possible. Un agent qui ne maîtrise même pas le PC4, le clavier, qui passe près de 30 minutes pour enrouler une seule personne, qui n'arrive même pas à voir là où, comment on fait pour relever l'empreinte digitale, pour même faire la photo, c'est grave. Vous remettez votre carte d'identité à quelqu'un de regarder pour remplir la fiche pour vous, c'est un problème. Ils ont fait quelle école?
Merci,
j'ai
Philippe.
J'ai peur de cette génération.
Je pense que la CENI doit être vraiment attentive à de telles déclarations et se donner la peine de rectifier le tir. Le suivant, bonjour. Allô?
Monsieur Gadou.
Ah, Monsieur Gadou, nous vous écoutons.
Oui, moi, il a été trop bavard, là, celui-là.
Ok.
Bon, Monsieur Sass, vous savez, moi, mon inquiétude, c'est que notre président Fognatimbe de ne pas oublier de dire à Macron que le Togo est toujours l'ami de Mali. C'est mon inquiétude. Il ne faut pas qu'il oublie ça. Merci, bonne journée.
Je vous en prie. Donc, Monsieur Gadou demande à Fognatimbe de rappeler à Macron que le Togo reste et demeure l'ami du Mali, c'est ça, non? Merci. Le suivant, bonjour.
Ah, mon directeur, Sassou Gao, bonjour.
Papa Sibiti.
Vous avez écouté tous les Togolais.
Mm-hmm.
Tout doit retomber sur notre président de la République. J'ai pitié pour lui, parce que quand on gère, vous voyez, quand quelqu'un, un journaliste à la radio, il prend les autres comme certains, ce n'est pas vous. Bon, le président de la République, notre président, pardon, a écouté. Le ministre de l'administration territoriale a écouté. Il ne faut pas qu'on les insulte. Moi, je n'aime pas qu'on salisse un responsable, à plus forte raison, un président de la République. Est-ce que tout le monde veut être président de la République? Mais on n'a pas eu, les gens n'ont pas eu la possibilité. Il est là. Ce n'est pas l'argent qui va lui manquer. Tout ce que les gens ont dit, les ordinaires, tout ça, ils n'ont qu'à revoir à Lomé là, même s'il faut donner 3 jours. Ça ne les dépasse pas.
C'est ça.
Pour qu'on ne le salisse pas. Les gens vont dire que oui, c'est parce que c'est le gouvernement. Ils ne veulent pas que les gens aient beaucoup leurs cartes. On vous a dit, les cartes électorales là, ça sert pour prendre de l'argent. Donc, tout ce qu'il y a, le président, il est parti, qui nous ramène de bonnes choses. Mais quand il reviendra, il faut qu'il décide. Parce que si c'est bon, c'est sur sa tête. Si c'est mauvais, c'est sur sa tête. Je ne voudrais pas que ce soit mauvais. Qu'il donne quelques jours pour reprendre les cartes électorales. Merci beaucoup.
Je vous en prie, je vous en prie. Nous allons terminer par cet auditeur, cette auditrice. Bonjour.
Bonjour, monsieur Sass.
Oui. Oui.
Monsieur
Kwasi de Sabado. Ok, diminuez un peu le volume de votre poste récepteur.
Oui.
Ok, maintenant nous vous écoutons.
Allô.
Oui, allez-y.
Allô.
Oui, oui, allez-y, nous vous écoutons.
Donc, je voudrais rebondir sur le recensement électoral.
Oui.
Pour dire que tout le monde a vu et a constaté que ça n'a pas été ce que ça doit être. Je suis dans la zone 1. Que le gouvernement prenne la mesure de la chose. Ils ne disent pas le chien aboie, la caravane passe là. Que le chien va aboie, la caravane va passer pour le recensement. Ça va aboie, la caravane va passer pour les élections. Ils prennent la mesure de la chose. Qu'ils reviennent à la zone 1 pour que les gens se fassent enrôler. Merci, monsieur.
Je vous en prie à vous, l'ami conseiller de Sabado, Papa Sibiti, monsieur Gado, Philippe, joyeux bonheur, monsieur Lamboni, depuis l'Egbasito, Vakosito. Monsieur Nyamavo, l'ami Joseph, Papa Sordiné, l'ami Kofi, Sylvestre Béni, tu as écouté toutes ces personnes-là avec des témoignages vraiment poignants et pathétiques.
Oui, oui. Et surtout nos amis ou nos frères qui ont été enrôlés comme OPS et qui, ma foi, n'honorent pas, en fait, ce pourquoi ils ont été recrutés. Vous êtes OPS, vous êtes payé à la fin donc de.
Mais je crois que c'est, je me rappelle c'est l'ANPE qui avait procédé à leur recrutement et ces gens ont été formés par la CENI.
Oui.
C'était au CETEP là-bas, Togo 2000. Oui. Comment malgré tout ce processus là, on en soit encore assez à cette triste réalité.
Justement, en parlant donc de PCTA, c'est une réalité puisque moi il y avait deux dames, il y a l'une qui dit à l'autre qui est sur la machine. Donc, elle a pris ma carte, elle dit B, elle a celle qui est sur la machine, mais B, elle attend. On dit E, elle attend, mais E, mais ça a pris un temps fou. Vous voyez, oh, regardez un peu la queue, cette longue file-là, des gens qui attendaient depuis 2 heures, 3 heures de temps, voire 4 heures, pour se faire enrôler. Donc, ça pose également un problème donc, de choix ou de recrutement donc, de ces OPS-là. Mais le grand problème, c'est que ceux qui prennent de l'argent, il faudrait qu'ils sachent que nous sommes dans un pays qui est régi par des lois. Ce que vous faites, la loi risque donc de vous rattraper. Vous n'êtes pas OPS pour aller prendre de l'argent, 500 000 francs, avant d'enrôler les Togolais. Ce n'est pas prévu dans la loi.
Non, à ce niveau-là, si tu permets, il y a les OPS qui étaient sur les kits. Mais il y avait les autres membres des commissions liste et carte.
Oui.
Je ne sais pas à quel niveau on contraignait les gens à leur donner de l'argent.
Oui, justement, parce que c'est fait, bon, pas des partis politiques qui ont été retenus.
Oui.
Parce que lorsque vous rentrez, il y a c'est des représentants des partis politiques qui sont là.
Oui.
Donc il faudrait quand même que, si certains peuvent arriver à faire des vidéos, faire ces vidéos-là, si on sanctionne une ou deux, parce que là, c'est une fraude. Vous êtes là, vous êtes payé donc à la fin du processus, et donc c'est pour cela que vous avez été recruté. Donc, il ne vous appartient plus. Et on ne vous demande pas d'aller prendre encore 500 ou 1000 francs donc, des pauvres Togolais avant donc, de leur faire une cape.
Oui.
Donc, ce que ces OPS-là sont en train de faire, je le dis, ils vont tomber sous le coup de la loi, ils seront sanctionnés.
Encore une fois, je voudrais qu'on fasse un distinguo entre les opérateurs de saisie et les autres membres des comités liste et carte. Et selon le code électoral, hein, le président du CLC est d'un parti politique. Et si le président du CLC est de la majorité, son rapporteur est de l'opposition et vice-versa. Ouais. Je crois que les enquêtes vont continuer pour situer à quel niveau on faisait du business sur la tête des électeurs, et si c'est au niveau des opérateurs de saisie, ou bien au niveau des CLC, avec la composition président de la majorité, rapporteur de l'opposition ou vice-versa.
Vous voyez, c'est-à-dire un témoignage comme ça, ça fait depuis le début du processus, ça circule déjà sur les réseaux sociaux. Mais la CENI n'a rien dit pour l'heure sur ça. Je présume que ils sont en train donc de faire des enquêtes, des investigations pour mieux nous soutenir, mais il faudrait quand même qu'ils reviennent pour que déjà, quand on va commencer dans la zone 2, au moins tous ces problèmes-là qu'on ne les entende plus. Voilà, donc c'est un élément important que
j'ai dit. Abel aussi, conclusion.
Pas de commentaire.
Non, dites-toi même. Pas de commentaire. Eh bien, merci, c'est fini pour aujourd'hui. Vraiment, félicitations à vous deux d'avoir tenu cette émission 90 minutes. À parler, ce n'est pas rien. Ouais. Même si vous buvez 2-3 litres, je vous comprends. Eh bien, nous allons maintenant
c'est
à
l'eau,
la pause.
Hein. C'est l'eau. L'eau,
H2O. H2O, voilà. L'eau. Ici, l'eau.
L'eau.
Et par la suite,
l'eau.
Eh bien, rendez-vous demain jeudi à 11h, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.